Ma découverte, elle s'est faite en deux temps. Une première, un peu par hasard, quand j'étais adolescente et que je faisais du babysitting. Et j'étais déjà une grande lectrice à cette époque-là. Donc, mon grand plaisir, c'était d'explorer les bibliothèques des gens chez qui je faisais du babysitting. Et je suis tombée sur le volume Vénus Erotica. Le titre m'a intriguée, j'ai feuilleté, j'ai été déconcertée parce qu'elle aborde déjà des thèmes. Enfin, la façon dont elle traite de l'érotisme là-dedans est souvent liée à l'inceste ou à des choses un peu perturbantes. Mais son nom m'a marquée. Et quelques années plus tard, quand j'étais étudiante en BD, sur un marché aux puces, je suis tombée sur des volumes expurgés du journal. Et donc, ce nom m'a fait tic. Et puis, il y avait son visage sur la couverture qui m'a beaucoup intriguée. J'aime vraiment beaucoup son visage. Et du coup, je les ai pris un peu par hasard. Et il se trouve que c'était les volumes qui correspondent à la période dont je parle dans ma BD, qui est, à mon avis, la période la plus facile pour entrer dans son œuvre. Et du coup, j'ai senti des résonances entre ce dont elle parlait et ce que je vivais moi en tant qu'apprentie autrice. C'est une période où elle n'est pas encore vraiment affirmée non plus. Et donc, son combat pour trouver son authenticité, pour arriver à exprimer ce qu'elle sent sans arriver encore vraiment à lui donner une forme, me touchait beaucoup. Ça a commencé comme ça. Après quelques bandes dessinées, donc j'ai fait des scénarios toute seule et puis j'ai fait des adaptations de polar. Il y a environ 8 ans, donc au moment où j'avais fini ma première grosse BD toute seule, j'ai commencé à la relire et à lire plus loin dans le journal, à comprendre, parce que c'est tout un mystère aussi sur les éditions expurgées, non expurgées, les textes en anglais, les textes en français qui ne sont pas forcément traduits intégralement. Et j'étais vraiment captivée par son œuvre. J'avais tout le temps envie de la lire et elle me donnait envie de créer. Et en plus, il y a toute cette, visuellement, cette période des années entre deux guerres qui est très belle. Enfin, ça correspond à mes goûts, à ce que j'ai envie de dessiner. Et petit à petit, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de parler d'elle et qu'elle ferait un bon personnage. Et dans un second temps, je me suis dit que je ne voulais pas réellement faire une biographie, mais que je voulais plutôt justement la traiter comme un personnage pour aborder à travers elle des thèmes qui sont plus universaux, comme la recherche de la liberté, que ce soit amoureuse ou créative, une sorte d'autodétermination et vraiment une lutte contre la médiocrité, contre l'ennui, contre ce qu'elle appelle la rouille de la vie, et qui me touche beaucoup, qui me porte de l'avant, quoi. On est le plus authentique quand on est face à nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'elle explore à travers ses journaux, qui sont vraiment une sorte de miroir. Elle s'auto-analyse, en fait, à travers son journal. Et à la fois, elle se met en scène. Et cette mise en scène représente une sorte de version idéalisée d'elle-même, qui serait son soi, entre guillemets, le plus authentique, qui n'est pas réaliste, mais qui est ce qu'elle souhaite être. Et c'est justement cette ambiguïté que je trouve super intéressante chez elle, où en jouant des rôles, elle se rapproche d'une certaine vérité. Mais c'est à chaque fois des fragments de vérité qu'elle va développer dans chacune de ses relations, en particulier avec les hommes, où à chaque fois, en fait, petit à petit, elle se rend compte des qualités qu'elle a envie de mettre en avant dans elle-même et des qualités qu'elle essaie de faire émerger ou d'amplifier chez les hommes avec qui elle est en relation. Et donc elle rentre à chaque fois dans une sorte de petit théâtre comme ça, fait de mensonges en partie, mais qui sert aussi à faire émerger des petits bouts de vérité. Et je trouve ça passionnant, en fait. Je pense qu'au départ, elle n'avait pas l'idée de publier le journal. À la période dont je parle dans la BD, son journal, c'est vraiment pour le moment un secret. C'est sa matière première dans laquelle elle va puiser ensuite pour écrire ses romans. Et dans les romans, elle change tous les noms, elle change les situations. Ses romans, c'est des sortes un peu d'allégories ou de collages un peu surréalistes qui ne sont pas forcément hyper faciles à lire vu d'aujourd'hui. Et du coup, elle rend les choses beaucoup plus abstraites. Ce n'est pas juste des copier-coller du journal, mais elle y puise quand même. Et c'est plus tard, aussi sur l'influence d'amis ou d'éditeurs, qu'elle va se rendre compte qu'en fait, son chef-d'œuvre, c'est son journal, quoi. Peut-être qu'elle le savait inconsciemment, mais que c'était une décision difficile à prendre, d'où la publication de son vivant de version très expurgée. Parce que justement, il y avait quand même tous ces secrets. Si c'était des secrets, elle ne voulait pas qu'ils émergent avant la mort de toutes les personnes concernées. Ah, j'ai plein de doutes, parce qu'en fait, en plus, comme on sait qu'elle a beaucoup retravaillé, recoupé, même les versions soi-disant non censurées de ses journaux sont en fait extrêmement éditées. Elle les a beaucoup retravaillées jusqu'à sa mort. Elle retravaillait les volumes qui allaient être publiés après sa mort. Elle avait spécifié qu'il fallait aussi attendre la mort d'Henry Miller, de son premier mari. Enfin, il y avait vraiment. Elle voulait surtout ne blesser personne. Mais donc, on sait qu'on ne sait pas toute la vérité. Il y a plein de choses qui sont restées secrètes, plein de choses qu'elle a transformées. Elle a joué avec la chronologie, elle a joué avec les noms parfois. Et du coup, moi, ça m'a donné une certaine liberté aussi de me dire je ne saurai jamais toute la vérité sur elle, donc autant donner une interprétation vraiment personnelle des choses qui m'ont le plus touchée chez elle et qui me semblent pouvoir être toucher un maximum de gens. Et justement, il y a une sorte de ligne assez fine où je cherche à garder l'authenticité ou disons à être fidèle à sa voix, mais en même temps je me permets une interprétation parce que c'est ce que je préfère faire en bande dessinée. Je suis pas fan des documentaires au sens strict en bande dessinée. J'aime bien quand il y a justement une liberté d'interprétation et être plus sur l'émotion que sur les faits. j'ai choisi cette période-là parce que j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'elle avait aussi été traitée en film dans les années 90. C'est une période vraiment clé où elle est clos, en fait. Elle a accumulé en elle beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir. Elle a énormément lu, elle est prête à éclore. Et la rencontre avec Henry Miller, pour moi, est vraiment l'étincelle qui va déclencher cette transformation. Et leur relation à eux deux, je la trouve hyper belle parce que toute leur vie, en fait, ils sont restés en contact, même quand ils n'étaient plus amants. Ils ont vraiment une émulation créative entre eux qui les a soutenus, où ils ont eu des combats aussi. Ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses, mais c'est hyper riche. Et du coup, ce début de relation qui commence vraiment d'abord par une relation d'esprit et qui se transforme en une relation charnelle, mais on sent que la créativité et les corps se mélangent et se nourrissent les uns les autres, c'est quelque chose d'hyper beau pour moi. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça. Je suis un peu frustrée que le nom d'Anaïs Nin soit beaucoup trop souvent, à mon goût, associé juste à ses écrits érotico-pornographiques, qui sont en plus quand même assez durs à lire, justement, parce qu'ils abordent souvent des choses qu'on peut mal vivre quand on les lit. Enfin, c'est toujours des sujets assez tabous, enfin, très souvent. Et en fait, ouais, les gens la connaissent surtout pour ça ou pour sa relation avec Miller. Donc je voulais pas insister sur le côté érotique. Je voulais pas que cette BD soit vue comme ouh la BD sulfureuse, mais je voulais pas nier ces passages-là non plus, parce que justement dans son œuvre et dans sa vie c'est quand même très important. Donc j'ai cherché graphiquement à être plus dans l'évocation, à justement me servir pas mal des motifs floraux ou des vagues ou de sentir plus l'élan du désir ou la sensualité de ce qui monte en elle, plutôt que des images frontales qu'on a déjà beaucoup vues dans la BD. C'était pas le lieu, je pense, de montrer juste des corps qui s'emboîtent, quoi. Ça a été une assez longue recherche aussi. J'ai toujours dessiné au crayon, mais d'habitude au crayon gris, avec une mise en couleur à l'ordinateur assez classique. Et j'étais un peu partie sur cette piste, et puis j'ai fait des tests au fusain, puis j'ai fait des tests à l'encre. Non, j'avais de la peine à trouver réellement le rendu. En fait, ces crayons multicolores, je m'en sers déjà depuis longtemps, mais uniquement pour les dédicaces. Je les avais découverts grâce à Kitty Crotters, une autre autrice belge qui fait de la jeunesse, qui m'en avait offert un jour. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ces crayons. Et quand je travaillais sur mon storyboard l'année passée, c'est mon amoureux en fait qui m'a suggéré de tester une planche avec ça. Et moi, j'étais sûre que ça se laisserait jamais scanner, numériser, que ça rendrait rien. Et j'en ai quand même testé une et en fait, ça rendait super. Et dans un second temps, donc au départ, je faisais quand même une mise en couleur sur toutes les planches. Et quand j'ai montré les 10 premières planches à mon éditrice, j'avais aussi amené les originaux sur papier, donc sans la couleur. Et elle m'a dit, enfin, toute l'équipe de Casterman était unanime pour me dire, mais en fait, c'est encore plus beau sans la couleur. Le trait respire, on voit mieux les expressions. Et effectivement, ça m'a soulagée parce que j'étais pas du tout contente de la couleur que je faisais en fait. Je sentais que ça alourdissait, que ça étouffait, mais dans ma tête, je n'avais pas eu le déclic de me dire le trait coloré comme il est là, se suffit à lui-même. Il a fallu que toute une équipe me le dise Enfin, tout d'un coup, c'était clair, quoi. C'est comme ça que je devais le faire. Et j'ai gardé des mises en couleur sur certaines séquences, qui sont des sortes d'aplats d'aquarelles que j'ai scannés à côté, que je réinscris, enfin, que je réincruste à l'ordinateur dans un deuxième temps, mais vraiment juste sur certaines scènes pour donner des ambiances particulières. J'ai une image mentale assez forte d'elle. Bah déjà, il existe énormément de photos qu'on peut voir très facilement sur Internet. Donc ça, j'avais beaucoup de documentation, c'était chouette. Mais après, il y a mon image mentale de quand je la lis, où c'est plus justement des impressions, des gestes, des postures, des regards. Donc oui, un des gros défis, c'était de la rendre aussi vivante et aussi attachante que possible, parce que je sais que beaucoup de gens, en la lisant, sont très irrités par elle, voire même la détestent, la trouvent extrêmement égotique, pénible. Ouais, et je comprends qu'on puisse la voir comme ça, mais c'est pas du tout mon ressenti. Donc je voulais aussi bah, donner ma vision qui est, j'allais dire amoureuse, mais oui, presque. Enfin, j'aime cette personne, ou presque ce personnage, parce que de nouveau, c'est mon interprétation d'elle. Et je pense que à force de travailler dessus, à un moment, j'ai dû laisser tomber les livres, ne plus trop m'y rattacher et vraiment écrire mon truc. Donc je pense que j'ai aussi un peu oublié la vraie Anaïs Nin, et là je suis plus sur mon Anaïs Nin, et à un moment je vais me replonger, et je vais sûrement redécouvrir des trucs et me dire « Ah ouais, j'avais complètement oublié ça !» Enfin oui, je ne suis pas du tout une experte, quoi, c'est ma vision. Quoi. On me pose des questions, et sur elle, et sur le féminisme. Et tout d'un coup, apparemment, on me voit comme une experte en féminisme, que je ne suis absolument pas. Je m'y intéresse beaucoup, je lis énormément, mais je n'ai pas du tout fini de comprendre et de déconstruire, donc voilà.